L'empereur a été parfait. Un mouvement insurrectionnel va éclater dans les états de l'Église. L'empereur a tout approuvé. Il paraît même que l'idée de voir la Lamoricière, chef de l'armée pontificale, se faire battre, l'a beaucoup amusé. Déclaration de Cavour à la suite d'un entretien avec Napoléon III en avril 1860.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
L'Italie est un vieux pays de culture, mais la construction de son État national est relativement récente. C'est au XIXe siècle que s'est constitué l'État italien. Les acteurs sont nombreux. On cite Garibaldi, on cite Mazzini, Victor Emmanuel II, entre autres. Mais indéniablement, sur le plan politique, le plus important est Camillo Benso, comte de Cavour. Celui-ci est né en 1810 dans une famille de la noblesse piémontaise. Il est, à la différence de ses parents, de tradition libérale. Et d'ailleurs, en 1830, il s'est réjoui de la chute de Charles X et de l'avènement de Louis-Philippe. C'est aussi un homme qui a voyagé. Il a parcouru la France, l'Angleterre, la Belgique, et il a vu ses États se transformer sous l'impact de la révolution industrielle. Il a appris à connaître les traditions libérales de la monarchie britannique. Lui-même a une expérience ministérielle, puisqu'il va être, entre 1849 et 1852, ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, ministre de la Marine. Et c'est en 1852 que le roi Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, va le nommer président du Conseil. Les deux hommes sont des partisans de l'unité de l'Italie. Mais ce sont des partisans raisonnables. Je veux dire par là que ce sont des hommes qui ont appris de l'échec de 1848. En effet, en 1848, le printemps des peuples qui avait bousculé l'ordre décidé par le Congrès de Vienne en 1815 avait traversé l'Italie. Mais au final, n'avait rien donné de concret. Les révolutions avaient toutes échoué et des pouvoirs autoritaires s'étaient établis ou rétablis à Naples, à Rome même avec le pape Pie IX, et les Autrichiens avaient à nouveau occupé la Vénétie et la Lombardie. Donc, pour Cavour, il y a quelque chose de clair. Il n'y aura pas d'unité spontanée de l'Italie. Il faut préparer cette unité. D'abord, la préparer sur le plan intérieur. Il s'agit de moderniser d'abord l'appareil militaire. On construit par exemple des chemins de fer pour faciliter le déplacement des troupes. On crée le port militaire de la Spezia. De même, on veut renforcer l'arsenal de Gênes. Il s'agit aussi de faire une préparation diplomatique. Il s'agit en particulier d'obtenir la neutralité britannique en faveur d'une unité italienne, et également le soutien de la France. Car pour vaincre l'Autriche, qui, bien sûr, n'allait pas accepter par principe l'unité d'Italie, il devait y avoir une guerre, et l'appui des troupes françaises serait extrêmement utile. C'est pour cela qu'en juillet 1859, Cavour se rend en France, à Plombières, dans les Vosges, où l'empereur Napoléon III prend les eaux, le rencontre et tous deux se mettent d'accord sur un plan d'action en faveur de l'unité. Mais, vous allez le voir, il ne s'agit pas d'une unité totale. Ce qu'accepte l'empereur des Français, c'est une unité du nord de l'Italie, c'est-à-dire chasser les Autrichiens de Venise et de Milan. Mais ensuite, il envisage qu'il y ait toujours un pouvoir pontifical temporel à Rome et dans le Latium, qu'il puisse y avoir un royaume d'Étrurie en Italie centrale, et que l'on conserve le royaume des deux Siciles, sur lequel règnent les Bourbons à Naples. Ensuite, l'empereur accepte le principe d'une participation de 200 000 soldats français à la campagne qui aura lieu en Lombardie-Vénétie. Inversement, Cavour doit faire des concessions. Au prix de l'intervention des Français, la France recevrait Nice et la Savoie après plébiscite, c'est-à-dire après référendum. Un dernier point dans la construction de cette unité, il faut rallier les forces politiques qui, spontanément, n'étaient pas toutes en faveur d'une monarchie autour des Savoies. Garibaldi et Mazzini, par exemple, étaient de tradition républicaine. Or, à force d'efforts, Cavour est parvenu à rallier, sauf Mazzini, les principaux partisans de l'unité italienne dans ce qu'on appelle la Société nationale en 1857, ce qui fait que, s'il doit y avoir unité de l'Italie, celle-ci se ferait autour de la monarchie des Savoies. La campagne militaire contre l'Autriche commence au printemps 1859. Il s'agit de déloger les Autrichiens de la Lombardie et de la Vénétie. La campagne de Lombardie est victorieuse. Victor Emmanuel II et Napoléon III entrent en triomphateur à Milan et les victoires de Solferino et Magenta viennent finalement clore la campagne lombarde. Par contre, la Vénétie s'avère beaucoup plus difficile. Au regard d'ailleurs des pertes que la campagne de Lombardie avait causées, Napoléon III ne veut pas lancer une seconde offensive sur les zones fortifiées que les Autrichiens ont organisées en Vénétie. Donc on renonce dans un premier temps à la Vénétie italienne. Mais cette campagne militaire franco-piémontaise déclenche dans toute l'Italie du centre des mouvements insurrectionnels à Parme, à Modène, à Florence, qui renverse finalement les duchés qui avaient été rétablis au congrès de Vienne en 1815. De même, dans une bonne partie des états de l'Église, au nord des états pontificaux, en Émilie-Romagne, dans la région de Bologne, les insurgés parviennent à éliminer le pouvoir pontifical, ce qui fait que finalement, ce royaume du nord de l'Italie va véritablement se développer sur le centre de la péninsule également. De plus, les accords franco-piémontais ne prévoyaient pas la fin du royaume des deux Siciles. Mais l'expédition des Mille, l'expédition de Garibaldi en Sicile, puis dans le sud de la péninsule, sans doute avec la cortacite de Cavour, lui permet de renverser les Bourbons de Naples. Ce qui fait que la carte géopolitique de l'Italie est franchement déstabilisé au profit d'une unité de la péninsule. Parce que le projet initial d'un royaume du Nord est désormais totalement dépassé. Il n'y aura plus de royaume d'Étrurie et les provinces du Sud ne sont plus sous domination des Bourbons. Ce qui fait qu'en fait, toute la péninsule, ou presque, est sous la direction des Piémontais au début de l'année 1861. Il ne reste plus que la question de Rome et du Latium, où une garnison française protège le pouvoir pontifical de Pie IX. Il reste encore la Vénétie, qui est toujours aux mains des Autrichiens, et puis le Tyrol et le Trentin, qui sont peuplés en grande partie de populations italophones. Donc, l'unité est largement accomplie à la fin de l'hiver 1861. Ce qui fait que le 18 mars, par la volonté de Dieu et la volonté de la nation, eh bien, le roi Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie. C'est un succès incontestable pour Cavour, parce que finalement, il a réussi à mener à bien une entreprise qui n'est pas évidente a priori. L'homme est finalement le grand vainqueur de cette unité italienne en 1861. Nous en avons un portrait grâce à Charles de Rémusat, qui l'a rencontré en novembre 1860. Voici ce qu'il nous dit de Cavour. « Je le trouvais dans ce même cabinet, assez mesquin, où je l'avais vu 4 ans auparavant. Il ne me parut ni vieilli ni fatigué, toujours simple de manière, facile, causant, point infatué, point solennel. C'est un esprit sans éclat, mais sans nuages. Il est en général les lumières et les idées d'un libéral anglais, avec la vivacité et la simplicité de l'esprit italien. Les difficultés, les finesses, les profondeurs des questions ne le troublent pas. Il n'engendre ni scrupules, ni scepticisme. Il ne s'inquiète pas de la rigoureuse honnêteté, ni surtout de la dignité des moyens. L'intérêt avoué lui paraît excuser ou couvrir bien des choses. Comme homme d'État, il a certainement plus de coup d'œil, de promptitude, de résolution, de courage d'esprit et de hardiesse à se compromettre qu'aucun de ceux dont j'ai entendu parler depuis 40 ans. Il est de sang-froid, optimiste, sans présomption, et il a un haut degré, cette qualité tant prisée par les Anglais, d'un Premier ministre. Il a de la bonne humeur. Charles de Rémusat disait que Cavour n'avait pas été fatigué. En fait, il est épuisé. Il est épuisé par ces années où il a œuvré pour l'unité de l'Italie. Il meurt brutalement d'un arrêt cardiaque le 4 juin 1861. Il a à peine 51 ans. À sa mort, l'unité italienne est faite, mais pas totalement. Il restera à résoudre la question de Rome, la question de la Vénétie, et puis, plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale, la question de l'Istrie et du Tyrol au Adige.